Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Et la France qui fait face à trois incendies majeurs.
En Gironde, où la presqu'île du Cap Ferré est donc en train d'être évacuée par la route et même par la mer, on l'a appris il y a quelques minutes. Dans les Landes, gros feu à Biscarrosse, consigne est donnée ce matin de se réfugier à la plage. Et dans le Var, où le feu dans les montagnes menace encore deux villages. Vous allez entendre aussi dans le journal les réactions au rebondissement trois ans après le meurtre du jeune Thomas à Crépol, la justice qui retient finalement la circonstance aggravante de racisme. Et puis le Tour de France, cette bataille finale donc annoncée pour aujourd'hui et demain dans l'Alpe d'Huez.
Et on part tout de suite en Gironde où la presqu'île du Cap Ferré est en train d'être évacuée.
En raison de l'incendie qui a pris donc avant-hier dans le secteur du Porche, qui a déjà ravagé 4800 hectares de forêt et qui se dirige vers le bassin d'Arcachon, c'est là que vous êtes en direct ce matin pour RMC, Jean-Wilfried Forquès. Des consignes ont donc été données toute la nuit et la dernière, eh bien, c'est l'évacuation totale du Cap Ferré.
Oui, c'est ça, la presqu'île du Ferré est évacuée depuis le milieu de la nuit avec des premières navettes maritimes, évacuation plutôt ici de dans la nuit du Porge, de Lège, notamment à Lège, où je me trouve ce matin. Un EHPAD a été évacué avec des autocars mis à la disposition des résidents qui sont relogés dans des structures adaptées. Sur la départementale entre la presqu'île et Lège, il y a des files ininterrompues, interminables de voitures, des habitants, des touristes qui sont souvent médusés, sidérés par cette situation absolument incroyable. Le feu progresse ici ce matin et les fumées sont terriblement toxiques. C'est pour ça que depuis quelques minutes, eh bien, j'étais obligé de mettre un masque FFP2 parce que la situation est vraiment très inquiétante ici.
Oui, on l'entend avec vous, Jean-Louis Forquès, en direct donc ce matin de ce département de la Gironde. Alors, il faut bien comprendre que la presqu'île du Cap Ferré, c'est tout au bout du bassin d'Arcachon. Il y a donc cette évacuation en cours par la mer, évacuation maritime, qui vient de commencer avec des navettes qui iront jusqu'à Arcachon. Et puis, il y a une autre évacuation par la route départementale, celle qui fait le tour du bassin. Parmi les gens qui l'empruntent ce matin, il y a Xavier, habitant de Lège-Cap Ferré. Il nous raconte sa nuit et donc l'évacuation en cours.
Dans la nuit, à 1h du matin, on a reçu un message comme quoi tout le monde devait évacuer le Lège pour ne pas gêner le travail des pompiers, en fait, qui ont un seul souci, c'est d'éviter que le feu passe d'est en ouest et traverse une route, et que s'il passe cette route, eh bien, il envahisse les lotissements au cœur de la ville, quoi, du village. La presqu'île de Lège-Cap Ferré a été évacuée depuis la pointe de Lège, et tout ce que vous voyez là, c'est les gens qui quittent la presqu'île aussi vite que possible.
Il y a 20 000 personnes déjà auparavant qui avaient été évacuées dans ce département de Gironde. La ville de Bordeaux a carrément ouvert le parc des expositions pour accueillir les vacanciers. Imagine un film d'horreur même à Lège-Cap Ferré où les flammes se sont propagées hier à l'intérieur du cimetière. Même les pompiers ont dû évacuer leur PC sécurité dans la commune du Porge. Leur porte-parole parle d'ailleurs d'une situation apocalyptique.
Il y a des pompiers qui défendent maison par maison. Évidemment, vous êtes dans la zone. Vous nous appelez au 3216 pour témoigner si vous-même vous êtes en train d'évacuer, si vous êtes en vacances dans cette zone. Apocalyptique, c'est aussi le terme qui est employé un peu plus au sud dans le département des Landes.
Oui, où là, un feu est parti d'un camion en panne sur une route passant au milieu de la forêt près de Biscarrosse. C'était hier dans l'après-midi. Depuis, il y a 2500 hectares qui ont brûlé selon la mairie. Nouveau bilan d'ailleurs qui fait état de 23 000 personnes évacuées dans les Landes. Léonie Guilbeault, vous y êtes en direct sur place pour RMC. Et la consigne ce matin, eh bien, c'est d'aller se réfugier à la plage.
Oui, ici, tous les évacués se regroupent sur la dune dans un restaurant de plage à Biscarrosse. La terrasse est bondée. Les gens continuent d'affluer massivement. Ici, on sert des cafés, des lits de camp ont été installés. Beaucoup sont enroulés dans leur couverture de survie. Oreillers, pyjamas, sacs de fortune, animaux sous le bras, les habitants ont dû évacuer dans l'urgence, comme Alexis et sa famille. Ils ont dû partir du centre de Biscarrosse. Ils figurent parmi les 23 000 personnes évacuées dans les Landes, plongées dans l'inquiétude.
On a mangé ensemble, en plein milieu du repas, les gendarmes sont arrivés pour dire « vous avez 3 minutes pour évacuer, pas une de plus ». Le feu, on n'a pas l'impression qu'il a l'air très maîtrisé, donc on est inquiet, un peu stressé.
C'est catastrophique, ça fait mal au cœur, on a envie de pleurer, enfin, ça fait mal et je pense que quand on va voir l'étendue des dégâts, ça va être traumatisant.
Les visages inquiets et les yeux fatigués sont tournés maintenant vers le ciel rouge incandescent. Le vent pousse la fumée vers nous dans un panache orangé impressionnant. Le feu n'est pas encore fixé. Les prochaines heures vont être décisives.
On l'entend avec vous, Léonie Guilbeault, ce matin en direct de Biscarrosse pour RMC. C'est le plus gros incendie depuis 36 ans dans ce département des Landes. C'est ce qu'écrit ce matin le journal Sud-Ouest.
Alors, il y a le Sud-Ouest, les pompiers sur plusieurs fronts en même temps. Le Sud-Ouest, on le disait, le bassin d'Arcachon, les Landes. Et puis, il y a toujours le feu dans le Var ce matin.
Oui, feu qui a pris il y a 3 jours dans les montagnes, qui a brûlé 2700 hectares de forêt et qui n'est toujours pas fixé là au moment où on se parle. Il menaçait même dans la soirée les communes de Corins et de Cotignac. Des habitants ont pu regagner leur maison, mais d'autres ont été contraints d'évacuer en raison de plusieurs reprises de feu toute la journée d'hier. Alors face à cette situation, eh bien Emmanuel Macron a demandé hier soir l'activation de ce qu'on appelle un mécanisme de protection civile au sein de l'Union européenne pour obtenir en fait des renforts de la part de nos voisins. C'est déjà acté. La Croatie, la Slovaquie, le Portugal et la République tchèque vont, ces quatre pays-là, nous envoyer eh bien des avions ou des hélicoptères bombardiers d'eau.
Et on y revient bien sûr tout au long de la matinale avec nos équipes sur place, avec vos témoignages au 32-16 si vous êtes dans ces zones touchées, si vous êtes évacué ou si vous êtes vous-même pompier ou proche de pompier, vous nous appelez 32-16. On lit vos messages sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. Il est 7h06 sur RMC et les réactions après le rebondissement dans l'affaire du meurtre de Crépol.
Vous vous souvenez de la mort du jeune Thomas en 2023 dans la Drôme. La justice vient de requalifier, c'est le rebondissement, les chefs d'accusation à l'encontre des 14 jeunes mis en cause. La circonstance aggravante de racisme, je cite, contre la race blanche et la nation française est désormais retenue. Quelles sont les réactions ce matin, Constance Bostoen ?
Exceptionnel et satisfaisant, ce sont les mots utilisés par maître Denis Dreyfus au micro de BFM TV. Il représente l'association des victimes du bal de Crépol.
On a présenté des observations, des propos racistes, à savoir on est là pour tuer du blanc, ont été tenus, ont été entendus par 16 personnes qui dans la procédure ont déposé en sens et qu'on ne pouvait pas écarter ces éléments.
Pourtant, malgré ces témoignages recueillis dès les premières heures qui ont suivi la rixe, le parquet avait renvoyé en juin dernier 11 des 14 suspects devant la cour d'assises, sans retenir le caractère raciste. La requalification opérée par la juge d'instruction sidère donc maître Élise Réjaco, l'avocate de 3 mises en cause.
Qu'il y ait des témoignages qui pouvaient parler que des propos à caractère anti-blanc aient pu être proférés, on le savait dès les premiers jours. Un témoignage humain, il est par nature, il est subjectif. Il peut aussi être empreint de mensonges. Il n'a de force probante suffisante que s'il est matérialisé et caractérisé par d'autres éléments et par des éléments notamment matériels.
Elle assure qu'elle utilisera tous les moyens procéduraux à sa disposition pour contester cette mise en examen.
Bon, il y a cette mauvaise nouvelle ce matin pour le pouvoir d'achat, c'est le prix du baril de pétrole qui, ça y est, repasse la barre des 100 dollars sur les marchés financiers en raison de la situation au Moyen-Orient où les frappes ont repris depuis bientôt 2 semaines. Et ça en plein cœur de l'été avant un nouveau week-end de départ en vacances. Tiens, ce vendredi, classé orange au niveau national, rouge pour le sud-ouest et pour le nord-est.
Il est 7h08 sur RMC et le Tour de France s'attaque au mythique col de l'Alpe d'Huez aujourd'hui.
Oui, ça fait 4 ans que le Tour de France n'est pas passé par l'Alpe d'Huez et ses 21 virages. On aura même double dose puisque les coureurs vont y arriver une fois aujourd'hui et une deuxième fois demain. C'est un programme dantesque. Aujourd'hui, il y aura encore 3500 mètres de dénivelé positif au départ de Gap. C'est énorme en fin de troisième semaine, Romain Asselin.
Il n'y a qu'à voir la mine de certains à l'arrivée des étapes.
C'est de la survie, c'est mentalement, il faut être très fort.
Directeur sportif chez Astana, Yvon Le Danois trouve les coureurs bien plus épuisés que d'habitude à ce stade de la course.
Il y en a déjà 85% qui le sont, pour pas dire 95%, donc, ou voire même 100%.
Benjamin Thomas le constate en montagne, dans le groupe Eto à l'arrière de la course.
Des fois, on est 90, 100 coureurs, c'est du jamais vu. On voit beaucoup de coureurs malades, et là, le moindre petit virus, le moindre petit rhume, ça peut vite t'amener à la maison. Derrière, tout le monde est cuit, quoi. C'est un peu atypique, mais ça vient du fait que les débuts de course sont de plus en plus intenses.
Plus de 44 km/h de moyenne depuis début juillet. Le peloton est sur les bases du Tour de France le plus rapide de l'histoire. Et une chaleur qui dure. Kevin Vauclin était lessivé hier à l'arrivée.
Sensation de merde. J'avais mal à la tête et tout, là. C'était horrible. Je me suis vraiment battu avec moi-même. J'ai vraiment envie de faire belle figure à Paris. Mais bon, avant de parler de Paris, il faut que j'aille être.
Car il reste 2 ascensions de l'Alpe d'Huez à surmonter d'ici dimanche pour le peloton et Alex Baudin.
On commence à être tous morts, donc on verra ce qui reste pour les 2 derniers jours, mais ça va être dur.
La souffrance.
Le prix à payer pour rallier les Champs-Élysées.
Oui, alors on se demande aussi ce qui se passe chez UAE, l'équipe du maillot jaune Tadej Pogacar, puisqu'elle montre des signes de faiblesse depuis 48 heures. Avant-hier, c'est les coéquipiers de Pogacar qui étaient mal en point. Hier, un autre a abandonné en raison d'un état grippal. Les favoris hier ne se sont pas attaqués dans la montée vers Orcières-Merlette, où c'est l'équatorien Richard Carapaz qui a levé les bras et remporté l'étape.
C'était le journal de Quentin Vinet sur RMC, RMC Story, il est 7h10 et on part tout de suite au 32-16. C'est Florian qui est avec nous en direct. Bonjour Florian.
Bonjour.
Vous nous appelez des Côtes d'Armor, Florian, et je vois que votre frère est pompier, c'est ça ?
Exactement, oui. Pompier professionnel, il fait partie du 10-53 et il fait partie d'une colonne nord-ouest et là, il est actuellement, oui, devant les flammes.
En Gironde ?
Oui, en Gironde, oui.
Il a été appelé en renfort et envoyé là-bas ?
Exactement, oui.
Est-ce que vous avez pu avoir de ces nouvelles ? Il y est depuis quand ?
Il y est depuis maintenant 3 jours. Et oui, j'ai de ces nouvelles assez régulièrement. Bah là, pas plus tard que ce matin, ils sont en train de défendre une maison avec des feux de cime, qui m'a dit. Et c'est des feux de 20 mètres de haut, quoi.
C'est-à-dire qu'ils vous racontent que des flammes de 20 mètres, là, sont très, très proches des maisons, quoi.
Ouais. Ah oui, complètement, oui.
Il y a des maisons qui ont brûlé ?
Oui. Bah hier ou dans la nuit de il y a 2 jours, ils devaient défendre un quartier qu'ils ont réussi à défendre. Le vent a tourné et les maisons qu'ils défendaient la nuit ont brûlé le matin.
Ouais. Ça doit être excessivement difficile. 3 jours dans cet enfer des flammes. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Est-ce qu'il a encore est-ce qu'il arrive à je sais pas à se reposer un petit peu ? Donc est-ce qu'ils ont encore l'énergie les pompiers de se défendre là ?
Ils sont fatigués. Maintenant, c'est leur métier, c'est leur mission. Et ils font coûte que coûte tout ce qu'ils doivent accomplir. Mais la fatigue physique est bien là. Ouais.
Vous l'avez senti inquiet là ces dernières heures, dans les dernières nouvelles que vous avez eues ?
Pas inquiet, mais plus dans le sens pas beau. Enfin, pour combattre, ils ont pas beaucoup de. Enfin, la nuit, ça avance vite le feu, quoi.
Oui, parce que ce qu'on va redire, c'est que la nuit, les moyens aériens, les Canadair, tous les bombardiers d'eau ne peuvent pas voler la nuit. Pour autant, le vent a continué cette nuit et semble-t-il, le vent a beaucoup avancé cette nuit.
Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Et ça, c'est des milliers d'hectares à chaque fois qui ont une journée qui sont pris et ça avance vraiment très vite, oui.
Et les maisons sont menacées, c'est ce qu'il vous raconte ce matin. Merci beaucoup pour votre témoignage, Florian. Évidemment, le 32-16 reste ouvert si vous êtes dans cette zone, en Gironde, dans les Landes, dans le Var aussi, où on n'oublie pas le Sud-Est, où ça brûle encore aussi. La situation la plus alarmante, c'est le Cap Ferret. Ce matin, on vous le disait dans le journal, la presqu'île du Cap Ferret, très touristique, remplie de vacanciers en ce moment, est en train d'être évacuée, y compris par la mer, avec des navettes qui viennent chercher les habitants et les vacanciers. On y revient tout au long de la matinale. Il est 7h13.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, on revient sur l'annonce de la ministre de la Santé. C'était hier matin sur RMC, le gouvernement qui a décidé de doubler le plafond des franchises médicales. On pourra payer jusqu'à 200 euros par an. Il y avait un maximum de 100 euros par an jusqu'à présent de soins, de médicaments non remboursés. Les patients atteints de maladies de longue durée ne seront pas exemptés. Ils devront aussi payer plus, mesure injuste et même inefficace. C'est le parti pris ce matin de Bastien Roux. Il préside la Fédération française des diabétiques, des malades qui seront particulièrement touchés. Son parti pris dans un instant en direct. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Vous êtes sur RMC et il est 7h16. C'était hier matin dans Apolline Matin. La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, annonçait sur RMC sa décision, la décision du gouvernement de doubler le plafond des franchises médicales, la participation forfaitaire que nous payons lorsque nous achetons une boîte de médicaments ou lorsque nous allons chez le médecin. Le plafond jusque-là était à 100 euros par an. Il va passer à 200 euros par an, une mesure qui doit rapporter 750 millions d'euros à l'assurance maladie. Bonjour Bastien Roux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous présidez la Fédération française des diabétiques, les patients
alors,
qui souffrent.
Je suis le directeur.
Directeur de la Fédération française des diabétiques. Pardon. Donc des patients qui souffrent de maladies chroniques et qui ne seront pas exemptés de ces franchises, qui ne le sont pas aujourd'hui, qui ne le seront toujours pas et qui vont devoir payer eux aussi jusqu'à 200 euros par an. Comment vous avez réagi à cette annonce ?
Plutôt mal, parce que pour nous, c'est en fait on est vraiment contre. On en a déjà discuté plusieurs fois. Sur le fond, c'est vraiment injuste et inefficace. Et sur la forme, on considère que c'est vraiment c'est un passage en force.
Pour vous, sont les plus fragiles qui vont en gros être mis le plus à contribution pour combler les déficits.
Alors, Oui, on peut dire que ce sont les plus fragiles qui sont mis les plus durement à contribution. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui se posent de moyens modestes, hein, qui sont en vulnérabilité sociale, c'est les personnes qui sont les plus à risque de développer des maladies chroniques. À titre d'exemple, une personne qui a des revenus modestes a 3 fois plus de probabilité de développer un diabète de type 2 et 3 fois plus de probabilité de développer des complications liées à ce diabète. Donc on sent qu'ils sont déjà impactés par une santé plus précaire. Et de ce fait, si vous leur demandez un effort supplémentaire pour payer leur santé, ça va représenter un effort vraiment considérable.
Pour vous, c'est des gens qui risquent tout simplement de renoncer aux soins à cause de ça ?
Absolument. Nous, c'est un risque très important. Il y a des études qui ont été faites par France Asso Santé sur le reste à charge. Et des personnes qui ont des revenus modestes ont plus de 50% de risque de renoncer à des soins. Pour des personnes qui ont des revenus inférieurs à 2000 euros, ce pourcentage passe à 70%.
Alors le gouvernement insiste sur le fait qu'il y a quand même 18 millions de Français qui sont exemptés de ces franchises, et notamment les personnes très modestes qui ont la complémentaire santé solidaire, qui eux ne payent pas ces franchises. Les très modestes ne les payent
oui,
pas.
Oui, absolument.
Victor, il y a des messages sur... restez bien avec nous, Monsieur Roux. On va juste lire quelques messages de nos auditeurs sur le WhatsApp RMC.
Et notamment Thierry qui est très en colère. Il nous dit « Mon fils est en ALD, affection longue durée. Alors déjà, moralement, c'est compliqué. Et maintenant, nous dit-il, pour faire des économies, il va falloir encore plus mettre la main au porte-monnaie. » Il nous écrit « Moi, je veux bien tout entendre. Je veux bien faire des efforts. Mais quand je vois que beaucoup de personnes surconsomment avec leur carte vitale, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment à moi de priver de soins mon fils ?»
Oui, parce qu'en fait, le fond de l'histoire, c'est ça, Bastien Roux. C'est le gouvernement qui tente d'endiguer la surconsommation de médicaments. La ministre disait hier, on a trop de médicaments dans nos placards, on peut faire un petit effort, essayer de ne pas racheter systématiquement des boîtes.
Mais ces médicaments, quand on est atteint de maladies chroniques, diabète de type 2, on choisit de les avoir ou on nous les prescrit ? On les prend pour le plaisir ou pour rester en bonne santé ? C'est là où on dit que, en plus d'être injuste, c'est inefficace. C'est inefficace parce que un patient, il est pas maître de sa consommation de soins. Quand il va chez le médecin, c'est pas pour le fun, c'est pour rester en bonne santé.
Pour vous, on se trompe de cible.
Le diabète. Non seulement on se trompe de cible, mais si vous voulez parler uniquement en termes de coûts, si on veut avoir une approche. On aime bien les approches comptables, donc on peut pas de problème. Un diabète équilibré, au début, c'est 300 euros. Un diabète non équilibré, donc avec des complications, c'est 30 000 euros. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut que les personnes soient en bonne santé pour que ça ne coûte pas trop cher, ou on veut que les personnes ne soient pas en bonne santé pour que ça nous coûte... 100 fois plus cher.
On risque de dépenser davantage encore in fine. Merci beaucoup ce matin d'avoir été avec nous. Bastien Roux, président de la Fédération française des diabétiques. Mesure injuste et inefficace. C'était votre parti pris ce matin. Il est 7h21 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, le meilleur d'Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Et puis l'économie avec Manu Le Chypre. Manu, bonne nouvelle, le fisc va nous rendre un peu d'argent.
Alors, pas à tout le monde, mais quand même, presque un contribuable.
J'ai cru qu'on avait vraiment une bonne nouvelle.
Alors, plus de 1000 euros pour ceux qui auront la chance de toucher ce reliquat d'impôt.
Allez, on se retrouve dans 30 secondes sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h23 et vous êtes bien sur RMC, c'est l'heure de l'économie.
RMC,
le chiffre du jour.
Avec Emmanuel, le chiffre du jour, c'est 1057 euros. C'est le montant moyen du remboursement d'impôts dont vont bénéficier les Français. Enfin, pas tous, mais...
Oui, voilà. Là, faut pas s'emballer, effectivement. Vendu comme ça, bon, vous comprenez bien, il y avait un petit effet teasing. Mais malheureusement, alors quand je dis, bon, malheureusement, ce sera quand même 12,6 millions de contribuables. Ça fait quand même un foyer fiscal sur trois. Donc vous avez quand même plus de chances de toucher un remboursement que de gagner au loto. Alors ils vont recevoir ces 12,6 millions de contribuables, effectivement, un remboursement d'impôt de la part du fisc à partir de ce vendredi 24 juillet. Et le montant moyen, ce sera 1057 euros. Alors qui est concerné? Eh bien tous les contribuables dont l'impôt 2025 qui avait été prélevé en 2025 à la source. Vous savez, en 2025, vous avez payé tous les mois finalement votre impôt à la source. Mais ça, c'était basé sur finalement les revenus que vous aviez gagnés en 2024. Le vrai impôt que vous devez en 2025, c'est celui qui résulte de la déclaration d'impôt que vous avez fait là au cours des dernières semaines. Et donc, c'est ce décalage qui fait que entre ce que vous aviez payé sur la base de l'estimation et ce que vous devez réellement, il y en a qui ont sans doute payé trop d'impôts en 2025 par rapport à ce qu'ils auraient dû. C'est eux qui vont toucher ce reliquat d'impôt. Et puis ceux qui ont déclaré comme il fallait, voire déclaré pas assez, eux seront rattrapés plus tard, ou bien personne ne touchera rien.
D'où vient cet écart?
Alors, cet écart qui fait que, évidemment, vous avez trop déclaré d'impôts, ça peut être lié d'abord à la baisse de votre revenu, si vous avez perdu, par exemple, votre emploi, si votre situation familiale a changé, vous avez divorcé, ou au contraire, vous avez enregistré une naissance, là, c'est pareil, le calcul de votre impôt est modifié. Vous êtes propriétaire, par exemple, vous aviez un locataire, mais ce locataire est parti, a quitté le logement, vous ne l'avez pas remplacé, vous avez subi une baisse de revenus. Vous avez peut-être aussi fait des placements qui donnent lieu à des déductions fiscales. On pense au plan d'épargne retraite, par exemple. Et puis, le cas le plus fréquent, c'est quand même le recours à des prestations qui donnent droit à des crédits d'impôt après la précédente déclaration d'impôt. Donc si par exemple en cours d'année vous avez embauché un salarié à domicile, engagé des frais de garde de jeune enfant ou réalisé un investissement locatif, vous êtes dans cette catégorie de Français qui va toucher un remboursement d'impôt. Alors aucune démarche de votre part n'est nécessaire. Si le fisc connaît vos coordonnées bancaires, eh bien, vous recevrez directement un virement sur votre compte.
Et ce sera peut-être une bonne surprise à découvrir sur son compte aujourd'hui, hein. Ça tombe aujourd'hui.
Ça commence aujourd'hui.
Emmanuel Lechypre, on se retrouve tout à l'heure. Après le journal de 8h, on parlera du coût économique des incendies. Et ça n'est que le début. On le voit bien dans un instant. Justement, on va revenir sur tout ça. La météo qu'on surveille, bien sûr, de très près. Et puis la situation en Gironde et dans les ce matin, c'est la presqu'île du Cap Ferret qui est en train d'être évacuée, y compris avec des navettes maritimes. On évacue par l'eau l'ensemble. Ce sont des milliers de vacanciers, cette presqu'île du Cap Ferret. C'est les bords du bassin d'Arcachon. C'est évidemment extrêmement fréquenté l'été. Le feu a passé la ligne que défendaient les pompiers. On sait que la nuit, les moyens aériens ne peuvent pas voler. Situation cauchemardesque dans ce département de la Gironde, avec donc de très nombreuses évacuations. Il y a aussi des milliers d'évacués du côté de Biscarrosse, où on a demandé aux gens d'aller sur la plage Biscarrosse dans les Landes, où c'est un autre incendie qui a brûlé plus de 2000 hectares. On sera évidemment sur place tout au long de la matinale et vous témoignez. On vous attend au 32-16. On lit tous vos messages, vos témoignages, si vous êtes en train d'être évacué ou si vous êtes dans cette zone-là. Vous témoignez sur le WhatsApp RMC, c'est 06 12 424 424. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
Tout de suite, un nouveau journal avec Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Le Cap Ferret en Gironde, Biscarrosse dans les Landes, plongé dans la peur face aux flammes. Des incendies qualifiés d'apocalyptiques par les pompiers ont déjà brûlé des milliers d'hectares et provoqué des évacuations en masse. Évacuation ce matin de la presqu'île du Cap Ferret par la route et par la mer. Le geste héroïque d'un homme de 19 ans à Lens. Il pourrait bien avoir sauvé la vie d'un bébé de 3 ans et sa mère. Ils sont dans un état critique ce matin après l'immolation d'un père de famille. C'est le rendez-vous que tous les passionnés attendaient. L'Alpe d'Huez accueille les deux étapes les plus décisives de ce Tour de France.
C'est une nuit d'angoisse que les habitants et les vacanciers viennent de passer au nord du bassin d'Arcachon, en Gironde.
Ouais, c'est un incendie d'une violence exceptionnelle qui frappe ce secteur. Des images impressionnantes, un mur de flammes qui dévaste tout. Plus de 4800 hectares brûlés, près de 20 000 personnes ont dû fuir leur habitation et leur lieu de vacances. Et Lucas Laubert, toute la presqu'île du Cap Ferret est en cours d'évacuation.
Oui, évacuation par la terre et par la mer. Cela fait 30 minutes que des navettes maritimes ont commencé des rotations pour tous ceux qui n'ont pas de moyens de locomotion. Embarquement depuis quatre jetées de la presqu'île direction le port d'Arcachon. Des bus font également la navette depuis la pointe du Cap Ferret vers ses lieux d'embarcation. Toute la presqu'île est évacuée suivant un plan d'évacuation minutieux élaboré après les incendies exceptionnels de 2022 en Gironde. C'est la première fois qu'il est mis en œuvre. C'est totalement inédit. En parallèle des évacuations par voie maritime, les personnes qui le peuvent doivent immédiatement quitter les lieux en empruntant la route départementale vers le nord du bassin. La mairie de Lège-Cap-Ferret le martèle, cette évacuation n'est pas temporaire car le feu avance. Cette nuit, les flammes ont franchi la ligne d'appui mise en œuvre par les pompiers pour tenter de freiner sa propagation, indique la préfecture de Gironde dans son dernier communiqué.
Lucas Laubert, et c'est un débroussaillage qui aurait provoqué une étincelle et déclenché cet incendie. Et Marion Gauthier, un prestataire d'Enedis, pour être impliqué.
C'est en tout cas ce que raconte à l'AFP une propriétaire à Somos où s'est déclaré l'incendie. Sa maison entourée de pinèdes, elle rentre chez elle, voit un tracteur, deux salariés catastrophés. Ils étaient là apparemment, dit-elle, pour des travaux de débroussaillage pour le compte d'Enedis. Ils auraient vu le feu partir juste après le passage du tracteur de leur collègue. Enedis ne peut pas dire s'ils sont la cause de l'incendie. Le groupe insiste, ses prestataires ont vu un départ de feu. Ils ont immédiatement alerté les secours et utilisé les extincteurs dans leur véhicule pour contenir les flammes. Et le débroussaillage près de lignes électriques est obligatoire, souligne encore le fournisseur d'énergie. Quelques heures après le départ de ce feu, la préfecture de Gironde interdisait tous les travaux forestiers utilisant des moteurs thermiques jusqu'à la fin de la vigilance rouge incendie.
Alors il y a cet incendie en Gironde et puis il y a ces évacuations également à Biscarrosse, là on est dans les Landes.
23 000 personnes ont dû fuir leur domicile ces dernières heures. L'incendie parti d'un camion en panne qui a pris feu hier a déjà parcouru plus de 2500 hectares. Les pompiers parlent d'une situation dantesque, un feu incontrôlable. La situation ne s'améliore pas en raison des vents tournants et de la sécheresse. Panique, angoisse pour les habitants, touristes, notamment Sofiane et sa famille qui ont dû fuir leur maison qui a été ravagée par les flammes.
On a vu, nous, le feu, et directement, on a pris les voitures, on est parti. Et là, on se retrouve à ne pas dormir, et à 6h du matin, aller juste demander un peu d'eau aux commerçants du coin. Et il y a des milliers d'habitants, des vies brisées, là, on n'a plus rien. On a réussi à sauver l'argent et les papiers. Moi, je ne dors pas, ma famille, elle ne dort pas. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on n'arrive même pas à respirer la nuit. Ça nous prend direct dans le thorax, ça nous fait mal, ça nous brûle. On croit, on suffoque.
Et la France appelle l'Europe à la rescousse face à ces incendies hors normes de ces dernières heures. Emmanuel Macron a demandé à Antoine Audion l'activation du mécanisme européen de protection civile.
Oui, la France va pouvoir compter rapidement, selon le président de la République, sur deux Canadair croates, deux avions Air Tractor portugais. Ils peuvent larguer environ 3000 litres d'eau et deux hélicoptères lourds en provenance de Tchéquie et de Slovaquie, des Black Hawk bombardiers d'eau. Tous ces renforts, ils sont déployés dans le cadre du mécanisme européen de protection civile. Il existe depuis 2001 et il permet aux pays membres et à 10 autres pays partenaires de demander des renforts en cas de catastrophe. Depuis le début de la saison des feux de forêt, la France l'a déjà activé à plusieurs reprises dans les Pyrénées-Orientales ou dans la Drôme, par exemple. À l'échelle européenne, cet été, 22 avions et 5 hélicoptères sont mobilisables pour aider les pays confrontés à des incendies et qui en font la demande.
Et l'incendie dans le secteur de Cotignac, dans le Var, toujours pas fixé. 2700 hectares parcourus par les flammes depuis mardi et de nombreuses reprises de feu hier. Mais la situation devrait s'améliorer dans les prochaines heures. Le Mistral devrait faiblir. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunes, lui suit attentivement la situation et va se rendre dans une heure au centre opérationnel de gestion interministérielle des crises de Beauvau. Une prise de parole est prévue à l'issue de cette réunion.
Il est 7h35 sur RMC. On en vient à ce drame familial à Lens.
Un père de 37 ans est mort après s'être immolé. Il aurait jeté du liquide inflammable sur sa compagne et leur bébé de 3 mois. Et ont été grièvement brûlés et sont toujours dans un état critique ce matin. Et Victor Girard, un homme de 19 ans pourrait bien avoir sauvé la vie du nourrisson.
Almenzo rentre de la salle de sport lorsqu'il aperçoit une épaisse fumée noire s'échapper d'une maison.
Devant l'habitation, une femme méconnaissable est en pleurs.
Son corps était rempli de suie, rempli de brûlés. Je lui demande qu'est-ce qui se passe. Et elle me dit mon bébé est à l'intérieur. Donc j'ai ouvert la porte avec la force que je pouvais.
Le jeune homme s'engouffre alors dans la maison en flammes à la recherche du nourrisson. Il fouille les pièces jusqu'à atteindre le salon.
Je tremblais et tout, j'avais un peu peur. Et en fait, le bébé était au niveau du canapé.
Almenzo n'hésite pas une seconde.
Je l'ai porté, son dos est resté collé par terre. Donc ça m'a fait un choc mental.
Et réalise un massage cardiaque sur le bébé inconscient.
Dès que j'ai entendu le bébé pleurer, j'ai l'impression à la relâcher. Donc j'ai pleuré aussi. Et après, on a laissé les pompiers finir.
Des pompiers qui prennent immédiatement en charge le nourrisson et sa mère, transférés en urgence à l'hôpital. Almenzo, toujours marqué par la scène, estime qu'il a fait ce qu'il devait faire.
La police, surtout, m'ont dit que c'était un acte héroïque. On devrait plus avoir une mentalité comme la mienne sans me jeter de fleurs. Quand on voit quelqu'un de blessé ou quelqu'un comme ça, on évite de le regarder ou le filmer et aller l'aider. C'est plus logique dans mon sens, on va dire ça comme ça.
Une enquête pour tentative d'homicide par conjoint et homicide sur mineur de 15 ans a été ouverte par le parquet de Béthune.
7h36 sur RMC, place au Grand Col sur le Tour de France.
Deux jours, deux arrivées à l'Alpe d'Huez et Kevin Morand. Les favoris n'ont plus le choix, il faut attaquer sous peine de voir le maillot jaune s'envoler.
Oui, pour la 33e fois de l'histoire du Tour, l'Alpe d'Huez accueillera une arrivée à l'issue de ses mythiques 21 virages à l'ambiance survoltée. Une découverte pour Alex Baudin.
On m'a dit que c'était vraiment un truc à part, l'Alpe d'Huez pendant le Tour. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça.
Et il aura droit à une double dose avec une arrivée demain toujours à l'Alpe d'Huez.
Bon, une seule fois, ça aurait suffi, je pense. Mais de le prendre d'un autre côté aussi, de le faire deux fois, c'est une chance.
Demain, les coureurs n'emprunteront que la fin de cette montée. Mais aujourd'hui, ce sont bien les 13 km 800 à 8% de moyenne qui sont au programme. Une arrivée qui fait rêver Valentin Paré. Peintre.
C'est une montée mythique, beaucoup de grands champions sont imposés là-bas, donc c'est toujours quelque chose d'être là-bas avec le Tour et j'espère être à l'avant sur une des deux, pourquoi pas se battre pour la victoire, on verra. C'est sûr, j'ai gagné au Mont Ventoux l'an passé et ça serait joli de gagner à l'Alpe d'Huez cette année. Ouais.
Pour Paul Sexas, quatrième du classement général et en course pour le podium, il y a aussi une part d'appréhension avant cette première ascension de l'Alpe d'Huez.
C'est sûr que c'est incroyable, après j'espère surtout de ne pas tomber dans la montée parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de spectateurs et on a vu que c'était quand même assez dangereux. Après forcément c'est les jambes qui vont parler.
1000 spectateurs au moins sont attendus aujourd'hui, rien que dans la montée de l'Alpe d'Huez.
Et c'est bien sûr à suivre dès 14h sur RMC.
Les courses, c'est sur l'hippodrome de Cabourg ce soir à 20h15.
Le pronostic de Mathieu Zaccagnini, son favori, le 7 Kéops Bégonia, son outsider, et le 11 Kenor des Bois.
Et on continue, merci, c'était le journal de Clément Gouiz sur RMC, 7h38. On continue de vous écouter au 32-16, vos témoignages si vous êtes dans les zones évacuées, les zones menacées par les incendies. On lit vos messages aussi sur le WhatsApp RMC, Victor.
Alors on a d'abord Christian Duvar qui nous dit qu'il a une pensée pour sa tante et son oncle qui vit à la Teste de Buch. Il nous dit aussi, Christian, depuis des années, le bassin d'Arcachon est ravagé par des feux dévastateurs et il appelle à retrouver au plus vite les responsables. On a aussi Thierry qui nous dit on s'est ému, il parle notamment des politiques pour la forêt de Fontainebleau, que dire désormais à ceux du Var et du Sud-Ouest. Et puis on a Mickaël qui nous dit je suis bûcheron, je suis un ancien pompier, j'aimerais être mobilisé si je peux aider, si on peut couper aux alentours pour éviter que ça ne brûle. Il aimerait être mobilisé si jamais il pouvait apporter son aide.
Voilà, vous continuez de nous écrire sur le 06 12 424 424, c'est sur WhatsApp, et vous nous appelez pour témoigner au 32 16, 7h39.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et un pompier sera avec nous dans un instant. Également le maire de la commune d'Arez qui est juste à côté de Lèche-Cap-Ferré alors que cette évacuation est en cours. Deux invités pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer sur le terrain, la situation pour les pompiers. Est-ce qu'ils ont les moyens de faire face? Ça fait aussi partie des questions alors que des renforts sont attendus, on vous le disait, grâce à nos voisins européens. A tout de suite sur RMC et RMC Store.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 7h43 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Plus de 6400 hectares brûlés en Gironde, 2500 du côté des Langues. Les pompiers viennent de passer une nouvelle nuit dans l'enfer des flammes. Et nous retournons sur place en direct ce matin, tout près du Cap Ferré, Presqu'île, qui est en train d'être évacué depuis très très tôt ce matin. Bonjour Xavier Danet.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous en direct ce matin. Vous êtes le maire d'Arès, qui est une commune limitrophe, hein, toute proche de Lège, Cap Ferré. On est en ligne ce matin avec Sébastien Delavoux. Bonjour à vous. Voilà.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes sapeur-pompier. Vous êtes porte-parole du collectif CGT des SDIS, les services de départementaux, de secours. On parlera des moyens, évidemment, et de l'état des forces avec vous. D'abord, la situation sur place, monsieur le maire. Au cœur de la nuit, il y a eu cette alerte. La presqu'île du Cap Ferret doit être évacuée. Cette évacuation est en cours. Comment ça se passe ?
Oui, l'évacuation de la ville de l'Ingé-Cap-Ferré est en cours depuis cette nuit. Je ne saurais dire l'heure puisqu'on a passé la nuit au poste de commandement. Elle s'effectue. Là, je viens de faire une reconnaissance et puisqu'il passe par la départementale 106, ça se fait à peu près dans une fluidité régulière, c'est-à-dire il y a un flux de véhicules qui évacue par la route, par la voie terrestre, la ville de l'Ingé-Cap-Ferré. Et aujourd'hui, on parle d'une évacuation d'une partie de ma commune également qui porte cette D106.
Évacuation par la route, il y a aussi des évacuations par la mer avec des navettes, des bateaux qui viennent chercher les habitants, les vacanciers de cette presqu'île du Cap Ferret.
Alors, je voudrais surtout pas parler à la place de mon collègue de la ville de l'Ingé-Cap-Ferret, mais dans le scénario envisagé, il y a une possibilité, effectivement, d'une évacuation par voie maritime dans un dernier recours, c'est-à-dire quand la piste, la route 106 n'est plus libre. Donc, à ce moment-là, il serait envisagé, effectivement, une évacuation maritime.
Racontez-nous, monsieur le maire, votre nuit. Vous dites que vous avez passé la nuit au PC de sécurité, avec les forces, avec les pompiers. Ce qu'on comprend d'ici, c'est que la ligne que défendaient les pompiers a été traversée par le feu cette nuit et que le feu menace désormais, ou en tout cas a déjà même attaqué les habitations.
Oui, mais une nuit, ça fait deux nuits. En deux nuits, j'ai dormi 2 heures. Hein, donc ce sont des journées denses, des journées émouvantes et des journées stressantes. On passe la nuit aux côtés des forces de l'ordre, aux côtés des sapeurs-pompiers, à les ravitailler, à effectivement envisager ce que l'on peut faire pour protéger. Notre premier rôle en nous, en tant qu'élus, c'est de protéger d'abord les personnes, de protéger les biens au maximum et de nous protéger notre bien extraordinaire qu'est la forêt.
Est-ce que vous savez nous dire combien de maisons ont été touchées par les flammes ce matin ?
Non, je ne saurais vous dire parce que sur ma commune, il n'y en a pas, mais il y en a plus d'une dizaine effectivement qui ont été touchées par les flammes.
Plus d'une dizaine ?
Oui, absolument.
Plus d'une dizaine touchées par les flammes sur la commune de l'Ingé-Cap-Ferret. Est-ce qu'il y a toujours une inquiétude ce matin chez les pompiers alors que le jour s'est levé? J'imagine que les rotations aériennes vont reprendre. Qu'est-ce qui nous attend pour cette journée si on évacue la presqu'île? Est-ce que ça veut dire qu'on pense que le feu va atteindre cette presqu'île?
Alors il y a deux choses effectivement. Il y a la prévention. On peut pas sur cette presqu'île qui a qu'un accès ne pas prévoir, ne pas anticiper. C'est un premier point. C'est aussi pour permettre de rassurer la population. C'est pas parce qu'on évacue que demain ou que tout à l'heure leur maison va brûler. On anticipe parce qu'on peut pas se permettre demain de le faire dans l'urgence. C'est aussi cette fluidité. On a une presqu'île qui est toute en longueur et il faut le faire dans la fluidité, dans le respect des uns et des autres pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage, qu'il n'y ait pas d'accident et que tout le monde puisse évacuer tranquillement.
Il y a 800 pompiers, en tout cas c'est le dernier chiffre qu'on a, 800 pompiers sur place, mais qui attendent des renforts. Il y a notamment des moyens aériens qui vont arriver de Croatie, du Portugal, c'est la solidarité européenne. Ces renforts, ils sont très attendus par les pompiers que vous côtoyez sur place?
Bien sûr, tous les renforts aériens, tous les renforts terrestres sont les bienvenus. Les soldats du feu combattent maintenant les flammes depuis de nombreuses heures. Il y a la fatigue, il y a la chaleur extrême que l'on connaît sur notre territoire. Et au-delà, confronté aux flammes, eh bien, la fatigue, la chaleur font que l'on est moins performant, que l'on est moins en sécurité également. Donc les renforts sont toujours les bienvenus. Et je tiens à saluer là, à ce moment-là de mes propos, l'extraordinaire professionnalisme et courage de ces femmes et de ces hommes qui combattent le feu avec abnégation. Et voilà, ils y vont. Ils réfléchissent pas, on y va. On a une bataille à mener et cette bataille, c'est pour le bien, cette bataille, c'est pour le vivant. Et donc, on ne peut qu'être ému quand on les voit travailler et quand on en parle.
Ouais, et on pense évidemment tous à ces pompiers qui sont sur le sur le front parce que c'est un combat maison par maison, hein, disent certains pompiers. Et il y a cette solidarité sur place dont vous parliez, puisque vous, maire de l'une des communes qui borde le bassin d'Arcachon, vous dites, on accompagne ces pompiers, on leur donne à manger, on leur donne aussi de quoi se restaurer, de quoi se reposer. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin. Xavier Danet, maire d'Arest, commune voisine de la commune de Lèves-Cap-Ferré, qui est la plus menacée encore ce matin. On est en ligne donc avec Sébastien Dalvoux également. Rebonjour à vous. Vous êtes donc sapeur-pompier, porte-parole du collectif CGT des SDIS, les services départementaux de secours. Quel est l'état des forces? Qu'est-ce qui vous remonte? Est-ce que vous arrivez à avoir des nouvelles de vos collègues sur place?
Oui, Sébastien Dalvoux, je corrige la prononciation de mon nom. Effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont engagés, que ce soit dans les feux de Gironde ou ailleurs, parce que le feu de Die, le feu dans le 73, on a eu un collègue décédé, le feu des Pyrénées-Orientales ne sont pas forcément totalement éteints. Il y a encore des gens, en fait, qui font le noyage, parce que c'est un travail qui est moins impressionnant à l'image, il n'y a pas de flammes, mais c'est un travail astreignant, en fait, qui demande beaucoup de professionnalisme et beaucoup d'engagement, et qui est très long. Ce qui est énervant, eh bien, c'est d'entendre qu'on n'a pas besoin de moyens, en fait, comme on a entendu les différents membres du gouvernement l'affirmer. Et nous, on peut vous dire qu'en 2021, on a rencontré le ministère de l'Intérieur et on leur a expliqué qu'on avait perdu 1000 camions depuis 2006 dédiés à la lutte contre le feu de forêt, alors que la superficie de la forêt augmente et que les risques, tout le monde en est d'accord, on en est là ce matin pour en parler, ils augmentent. Ils augmentent en intensité, ils augmentent en aire géographique concernée, et la saison commence plus tôt et finit plus tard. Donc, ils n'étaient pas au courant qu'ils avaient perdu 1000 camions. En 2022, on prend un coup de pied au cul, le président de la République, il annonce qu'on va recommander 1000 camions qui ne sont pas tous des porteurs d'eau, mais les 1000 qu'on a perdus, c'est bien tous des porteurs d'eau. Et puis, il y a la question, en fait, du personnel pour les armées. Parce que, on parle de gens, en fait, qui sont venus de l'extérieur. Mais je peux vous dire que, il y a des gens qui sont arrivés d'Île-de-France hier, qui ont été engagés dès qu'ils sont arrivés sur place après s'être tapé 8 ou 9 heures de camion. Ça montre la faiblesse des moyens. Alors, en tout cas, le manque de moyens pour pouvoir respecter le temps de repos, avoir de la fatigue. En fait, ce que vous
voulez dire, c'est que quand le ministre dit « nous faisons face, la France bashing », en fait, il dit « la France bashing, ça suffit, nous faisons face, on sait gérer les crises », en fait, c'est grâce au dévouement des pompiers qui donnent beaucoup.
Ah ben, ils donnent beaucoup. Là, je reviens à ma colonne d'Île-de-France. La majorité sont sapeurs-pompiers professionnels. Et ils sont partis sous statut sapeur-pompier volontaire parce qu'on les autorise pas à partir sur du temps de travail. Certains ont posé des congés pour venir éteindre les feux à l'autre bout de la France dont on connaît la dangerosité. C'est ça qu'on doit interroger. On a rencontré avec toutes les organisations syndicales le cabinet du Premier ministre le 27 mai pour leur dire que la sécurité civile avait le pantalon sur les chevilles, et à ce moment-là, il n'y avait pas de feu. Parce que notre problème, c'est pas au moment des feux, notre problème, il est déjà au quotidien pour savoir comment on fait partir un fourgon de proximité, un mercredi matin, parce que 80% des agents sont volontaires, et des fois, ils sont pas disponibles. Et il n'y a pas à les incriminer, mais on a à garantir une égalité des citoyens face aux secours d'urgence. Et dans tout un tas de situations, je peux vous en décrire quelques-unes là, j'ai un collègue dans l'Est de la France qui m'a dit, la semaine dernière, on est arrivé le premier engin 1h20 après l'appel. Avant-hier, il y a 4 jours, il y avait dans un département d'Île-de-France parmi les plus importants, il y a eu un feu de récolte, mais comme tous les engins étaient engagés, le premier engin déclenché était à 50 km du feu.
Et on entend c'est votre alerte ce matin, c'est tout ça, j'imagine que pour vous c'est des risques, et on pense évidemment à tous les pompiers qui on le disait, donnent beaucoup, sont mobilisés dans des conditions qui peuvent être extrêmement difficiles. Merci beaucoup, on a bien entendu votre alerte, Sébastien Dalvoux, sapeur-pompier, porte-parole de la CGT des services départementaux d'incendie et de secours. Il est 7h52. Dans un instant, votre rendez-vous d'été RMC dans vos ville. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Le bonus RMC à 7h54 avec vous, Lou Garnier, et le groupe The Strokes qui sort un nouvel album.
6 ans après leur dernière collaboration, le groupe de rock new-yorkais The Strokes sort un 7e album. Il s'appelle Reality Awaits. 9 titres au total, dont 2 qu'on connaît depuis quelques mois, comme Going Shopping. I'm on my way to the country. Alors The Strokes, c'est un groupe de 5 artistes. Leur premier titre emblématique, c'est Last Night, sorti en 2001. 25 ans de carrière et ils enchaînent toujours les dates de concerts et de festivals comme Coachella aux États-Unis où ils étaient en avril. En France, on les retrouve le 22 octobre prochain à l'Accor Arena à Paris où ils se produisent évidemment pour notre plus grand plaisir à guichet fermé.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 7h55 sur RMC. On entendait ce maire de Gironde. Bien justement, on continue de faire le tour de France des maires élus ou réélus au mois de mars, des maires au plus près du terrain. Avec une question ce matin, Pierre Bourgès, faut-il un âge limite pour être maire? Question qui a divisé la petite commune de Nabira, 345 habitants. C'est en Dordogne, qui a élu de justesse en mars dernier Yvette Vigier. Elle a 93 ans et c'est la doyenne des maires de France. Et c'est donc vous, Pierre Bourgès, qui êtes allé la rencontrer pour RMC.
Mais vous êtes en avance.
Un peu.
Rentrez au frais.
Il va falloir que je patiente un peu à l'accueil de la mairie. Yvette Vigier et son adjointe finalisent l'agenda de son été.
Ça commence par le 20, il y a la fête des chasseurs.
Ah oui, le 20, les chasseurs. Parce que là, je ne sais plus où je suis, oui.
Et le 8 août, Bodega.
Et ça s'arrête là, j'espère.
Pour l'instant, ça s'arrête là.
La maire de Nabira nous amène dans son petit bureau d'un pas assuré. Doyenne des maires de France, c'est un titre qui l'amuse.
Il y a un doyen qui m'en veut. Parce qu'il m'a dit, moi, je suis plus ancien que vous, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait là. Mais il a 30 quelques habitants, ça doit pas être trop fatigué.
Avec son regard vif derrière ses grandes lunettes marron, elle le promet, malgré son âge, la maire de Nabira et ses 345 habitants est en pleine forme.
Mais je n'ai aucun problème, qu'est-ce que vous voulez? Je n'y peux rien. C'est pas de ma faute si je dure trop longtemps. Je n'ai pas changé. Le physique un petit peu, ça c'est sûr. Je ne ferai pas physiquement ce que je faisais il y a 10 ans. J'étais partout. Au pastoraux, dans les associations maintenant, bon, il a fallu se calmer.
Yvette Vigier est maire de Nabira depuis 1989. Mais en 2026, elle n'a été élue qu'à 3 petites voix près. C'est évidemment l'âge de la nonagénaire qui a partagé les habitants.
Elle est dynamique. Bon, je dis, il n'y a pas à se plaindre. Hein. Elle a bien fait ses mandats et tout. Il n'y a pas de souci. Hein.
Dans les médias, ce n'est pas un problème. Mais c'est vrai que ça peut le devenir. C'est peut-être un peu trop âgé. Je pense qu'il arrive un moment où il faut savoir lever le pied.
J'ai rien contre elle, c'est pas méchant, mais je veux dire, à 92 ans ou 13 ans, là, on n'a pas toutes les neurones. Il faut pas dire de conneries quand même, non?
Est-ce qu'on n'est pas trop vieux à 93 ans?
Oh, on est trop vieux déjà à 50 ans. Il y a longtemps que j'entends ça. Mais ça ne me touche pas. Moi, je ne réponds pas. Tout ce qui m'attaque, je ne réponds pas, mais je les regarde. Je me dis, vous avez du temps à perdre.
Madame la maire le concède. Après 37 ans aux affaires, la mairie, c'est un peu tout ce qu'elle a aujourd'hui.
La mairie, c'est ma passion. C'est ma grande famille, en fait. Et je crois que j'ai mis toute mon affection là-dessus. J'ai besoin de travailler, je ne peux pas rester inactive.
Et même si elle ne préfère pas y penser, en coulisses, la succession se prépare. En cas de problème, dit-elle, tout est prêt.
Reportage RMC signé Pierre Bourgès et on continue tous les jours, tous les matins de l'été, ce tour de France des villes. Dans un instant, la météo, le journal de 8h, on retourne bien sûr en Gironde, dans les Landes, avec les reporters RMC, l'évacuation du Cap Ferret en cours depuis très tôt ce matin face à un incendie qui est hors de contrôle et qui menace vraiment les habitations. Situation cauchemardesque, on est en direct dans un instant, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
8h01 sur RMC, soyez tous les bienvenus.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Image impressionnante ce matin des incendies toujours menaçants en Gironde, dans les Landes, dans le Var aussi, où plus de 40 000 évacuations ont été ordonnées au total. En Gironde, l'évacuation du Cap Ferret a commencé, on sera sur place. Et dans les Landes, les vacanciers doivent aller se réfugier sur la plage. Nous sommes également sur place ce matin sur RMC. On va vous raconter dans le journal l'indignation à Marseille, où un concert du chanteur Amir a été annulé après un appel au boycott de la part de militants pro-palestiniens. Et nous serons également dans les Alpes, à quelques heures de la première des deux étapes du Tour des France qui arrive à l'Alpe d'Huez.
L'image est saisissante ce matin en Gironde. Habitants et vacanciers évacuent en ce moment le Cap Ferret.
En raison toujours de l'incendie qui a brûlé 6400 hectares de forêt. Selon le tout dernier bilan des pompiers, il y a quasiment 2000 hectares de forêt en plus qui ont brûlé durant la nuit. Et c'est donc pour cette raison que l'ordre a été donné très tôt ce matin d'évacuer toute la presqu'île du Cap Ferret par la terre mais aussi par la mer. Ça a déjà commencé. Vous y êtes en direct ce matin pour RMC, Jean-Wilfried Vorkes. Vous assistez en ce moment à cette évacuation de milliers de personnes.
Oui, c'est ça, évacuation, vous l'avez dit, par voie maritime avec des bateaux depuis 7 heures tout à l'heure. Évacuation par la route également. Au-dessus, là, sur la départementale 106, je suis à proximité, une départementale en direction de Bordeaux. Il y a des files de voitures sur plusieurs kilomètres qui roulent au pas. Évacuation également dans la commune de Lège, où nous étions ce matin, du Porge et d'autres communes situées à proximité de la presqu'île. Tout se fait, Quentin, je dirais, dans le calme ce matin. Il n'y a pas de panique. Beaucoup avaient anticipé d'ailleurs cette évacuation. Le feu progresse sur place. Le vent s'est levé. Le vent d'ailleurs souffle très très fort. Dans le ciel, il y a très souvent des poussières de cendres. Et l'air est quasiment irrespirable depuis une heure ou deux ici, avec une fumée qui est très très toxique.
Jean-Wilfried Vorkes, on l'entend avec vous, c'est pour ça que vous portez un masque ce matin, Jean-Wilfried Vorkes pour RMC, en direct donc de Gironde. Les évacuations par bateau qui ont déjà commencé, il y a 400 personnes qui sont arrivées là il y a quelques minutes à Arcachon, c'est ce que fait savoir la mairie de cette cité balnéaire. Alors pourquoi cette évacuation de toute la presqu'île du Cap Ferret? Pourquoi est-ce qu'elle a été décrétée? Eh bien écoutez la réponse il y a quelques minutes sur RMC du maire d'Arès, Xavier Danet.
On ne peut pas, sur cette presqu'île qui a qu'un accès, ne pas prévoir, ne pas anticiper. C'est un premier point, c'est aussi pour permettre de rassurer la population. C'est pas parce qu'on évacue que tout à l'heure leur maison va brûler. On anticipe parce qu'on ne peut pas se permettre de le faire dans l'urgence. On a une presqu'île qui est toute en longueur et il faut le faire dans la fluidité, dans le respect des uns et des autres pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage, qu'il n'y ait pas d'accident et que tout le monde puisse évacuer tranquillement.
Alors ces évacuations s'ajoutent aux 20 000 qui avaient déjà été effectuées depuis 48 heures. Certains vacanciers sont accueillis à Bordeaux, carrément au parc des expositions. Tout prête à croire que ce feu là de Gironde est parti d'un débroussaillage effectué pour le compte d'Enedis au beau milieu de la Pinède. Et les informations nous arrivent là à la seconde, à l'instant, bilan de la préfecture de Gironde. Le feu a brûlé 8700 hectares de forêt depuis 3 jours. C'est le tout dernier bilan des pompiers. Ça veut dire qu'il a doublé de surface durant la nuit.
Et on sera juste après le journal justement avec le maire de Bordeaux qui accueille certains des évacués de cette zone du bassin d'Arcachon. L'autre image marquante de la matinée, c'est l'évacuation de 23 000 personnes ces dernières heures dans le département des voisins des Landes.
Alors là, c'est en raison du feu qui a pris hier après-midi à Biscarrosse, sans doute à cause d'un camion tombé en panne sur la route qui traverse la forêt. 2500 hectares de forêt ont déjà brûlé. Léonie Guilbeault, vous êtes en direct de ce département des Landes pour RMC ce matin, où les vacanciers ont reçu la consigne d'aller se réfugier à la plage.
Oui, je suis avec les évacués regroupés sur le fond de mer dans un restaurant de plage à Biscarrosse. Une partie des tables ont été repoussées dans un coin de la terrasse et au centre des matelas de sol, des lits de camp où les évacués attendent enroulés dans leur couverture de survie. C'est plein à craquer ici. Ça continue d'affluer massivement. On sert le café. Les visages sont vraiment très inquiets, tendus, les yeux fatigués après une nuit d'attente. Oreillers, pyjamas, sacs de fortune, animaux sous le bras, les habitants et les vacanciers ont dû évacuer dans l'urgence, comme Aurélie et sa famille, originaire de Niort, en vacances au camping de Mayotte. Ils figurent parmi les 23 000 personnes évacuées des Landes.
On a vu la fumée, on s'est posé des questions. Et puis, à 3h30, c'est la police qui est arrivée dans le camping pour nous dire qu'il fallait évacuer. Mais bon, après, voilà, on va bien, on voit bien que tout est mobilisé. Voilà, c'est triste pour les gens qui sont là, pour toute la forêt qui brûle, quoi. C'est impressionnant, on a vu sur la route, c'est quand même assez impressionnant.
Un ciel apocalyptique ici, c'est vraiment surnaturel. Tout est rouge de feu avec un panache de fumée épais qui se dirige vers nous, poussé par un vent assez fort quand même. On entend régulièrement aussi les sirènes de pompiers. Au loin, 600 sont toujours mobilisés dans le département. Les Canadairs reprennent leur vol au moment où je vous parle d'ailleurs. Mais malgré tout ça, pour le moment, le feu n'est pas encore fixé et les prochaines heures vont être décisives.
Et on parle du plus gros feu, hein, Léonie Guilbault, en direct ce matin des Landes, du plus gros feu depuis une trentaine d'années dans ce département. Et comme en Gironde, hein, dans les Landes, les pompiers parlent d'un feu apocalyptique et d'une situation dantesque.
Il y a cette situation dans le sud-ouest, la Gironde, les Landes, et puis il y a toujours le sud-est de la France. Il y a toujours le feu dans le Var ce matin.
Alors celui-là, dans les montagnes, autour des villages pittoresques provençaux, hein, où 2700 hectares de forêt ont brûlé depuis le début de la semaine. Feu qui menaçait encore hier soir les villages de Corins et de Cotignac. Il y a eu de nouvelles évacuations dans la soirée et on déplore 25 maisons détruites par les flammes. Pendant ce temps-là, à Paris, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, fait savoir qu'il suit la situation et qu'il prendra la parole, là, tout à l'heure, à 9h. Emmanuel Macron lui a demandé des renforts européens en activant ce qu'on appelle le mécanisme de protection civile au sein de l'UE. Concrètement, ça veut dire que là, des moyens aériens vont arriver en provenance du Portugal, de Croatie, de Slovaquie, mais aussi de République tchèque.
Et on y revient bien sûr juste après le journal. On attend tous vos témoignages aussi au 32-16 si vous êtes dans ces zones évacuées, si vous êtes en vacances, que ce soit dans le sud-ouest ou dans le sud-est, si vous connaissez des pompiers parmi vos proches, bien sûr vous nous appelez 32-16 pour témoigner. On lit tous vos messages 06 12 424 424 sur le WhatsApp RMC.
Ces feux qui interviennent au beau milieu donc des vacances avec beaucoup de monde attendu encore sur la route, notamment dans le sud-ouest où la journée est classée rouge, c'est pareil pour le nord-est et orange partout ailleurs au niveau national. Mauvaise nouvelle d'ailleurs, tiens, pour ceux qui vont prendre la route aujourd'hui pour le pouvoir d'achat, le prix du baril de pétrole qui repasse la barre des 100 dollars sur les marchés financiers, c'est en raison, vous vous en doutez bien, de la situation au Moyen-Orient où les frappes ont repris depuis maintenant deux semaines.
8h08 sur RMC, il y a de l'indignation ce matin à Marseille.
Oui, vous connaissez Amir, le chanteur franco-israélien. Il devait donner un concert à Marseille dimanche, concert gratuit même, mais ce concert a été annulé. On l'a appris dans la soirée après un appel au boycott émanant d'un collectif pro-palestinien. Quelques jours seulement après l'interruption d'un concert à Grenoble pour les mêmes raisons. Pierre Bazin en direct ce matin pour RMC. Les organisateurs en fait à Marseille ne veulent pas prendre de risques.
Oui, dans un message posté sur les réseaux sociaux, la direction du centre commercial Les Terrasses du Port, qui devait accueillir le chanteur Amir, a préféré anticiper pour la sécurité des artistes, du public et des équipes. Le concert est annulé. Une décision qui fait donc suite à plusieurs appels au boycott depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, notamment de la part du collectif Union Palestine Marseille. L'organisation s'est félicitée de cette annulation, évoquant, je cite, une victoire de la mobilisation populaire. L'entourage du chanteur, de son côté, déplore cette décision. Amir est ciblé uniquement en raison de sa judéité, affirme le directeur de son label. Le conseil de représentation des institutions juives, le CRIF, a dénoncé une chasse aux artistes juifs et aux engagés contre l'antisémitisme. Fin de citation.
Bon, et puis on est au matin de la bagarre finale sur le Tour de France. Il reste deux étapes dans les Alpes avant l'arrivée à Paris dimanche. Et les deux étapes à venir arriveront toutes les deux à l'Alpe d'Huez, ce col mythique que le Tour de France n'a plus emprunté depuis maintenant 4 ans. Mais alors Maria Azé, vous commentez tous les jours la course sur la moto RMC. Et on se demande ce matin ce qui se passe avec l'équipe du maillot jaune Tadej Pogacar, équipe qui a l'air de finir le Tour sur les rotules.
Oui, les coéquipiers du maillot jaune ont beaucoup roulé hein, depuis le début du Tour de France et les efforts commencent à se payer. Tout a commencé avant-hier. Adam Yates, fidèle lieutenant de Tadej Pogacar, souffre d'une gastro et a du mal à terminer l'étape. Pour ne pas contaminer le reste de l'équipe, il est placé à l'isolement. Mais hier, pour l'arrivée à Orcières-Merlette, c'est l'hécatombe. L'Américain Brandon McNulty abandonne à 50 km de l'arrivée à cause de problèmes respiratoires, tandis que Tim Wellens et Florian Vermeersch ont passé l'étape à l'arrière, pas en forme. Du côté du AE, on assure que le maillot jaune du Tour de France, Tadej Pogacar n'est pas concerné par ce virus, sauf qu'hier le Slovène portait un cuissard noir et non un jaune comme depuis le début du Tour de France, ce qui interroge sur de potentiels problèmes gastriques. Une très mauvaise nouvelle pour l'équipe UAE qui aura besoin de ses coureurs pour affronter les deux arrivées au sommet de l'Alpe d'Huez.
Et c'est vous qui allez nous faire vivre ces deux étapes à venir, Maria Azé, sur la moto RMC. Au départ de Gap aujourd'hui, en repassant par la route Napoléon, ça promet de beaux paysages. On espère qu'il y aura de la bagarre. Hier, les favoris se sont pas attaqués à Orcières-Merlette où c'est l'équatorien Richard Carapaz qui a gagné l'étape.
C'était le journal de Quentin Vinet sur RMC. Il est 8h11.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, on retourne en Gironde. On est en ligne avec le maire de Bordeaux. Bonjour Thomas Cazenave.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes en train vous-même d'accueillir sur la ville de Bordeaux un certain nombre de personnes évacuées du Cap Ferret. Ce sont des milliers de personnes qui sont en train de fuir la zone des incendies à la fois par la route et par bateau à travers le bassin d'Arcachon. On est avec vous en direct dans un instant et les auditeurs bien sûr peuvent continuer à témoigner au 32-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
8h14, vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story et on continue de suivre bien sûr en direct la situation dans le sud-ouest et notamment dans le département de la Gironde. 8700 hectares partis en fumée ces dernières heures en Gironde au nord du Cap Ferret. La presqu'île menacée par les flammes qui doit évacuer, qui a reçu une alerte au cœur de la nuit pour évacuer l'ensemble de la presqu'île très touristique du Cap Ferret. Quand on dit 8700 hectares, cette surface a doublé en l'espace de quelques heures entre hier soir et ce matin. Et ce sont désormais des évacuations par la route et par la mer qui continuent. Plusieurs centaines de personnes qui partent par bateau de cette presqu'île du Cap Ferret. Et certains vont se réfugier jusqu'à Bordeaux. Bonjour Thomas Cazenave.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le maire de Bordeaux et vous avez mis en place depuis hier soir des dispositifs pour accueillir ces habitants, ces vacanciers qui fuient le Cap Ferret.
Oui, même depuis hier 5h du matin, parce que les évacuations elles ont commencé dès hier. Et donc on a ouvert le parc des expositions à Bordeaux avec une capacité d'accueil de 1000 personnes. On a reçu hier déjà 700 personnes avant l'évacuation de la presqu'île. On a une centaine de personnes qui ont passé la nuit au sein du parc des expositions. Nous avons installé des lits, livré des repas, installé des douches pour permettre d'accueillir toutes celles et ceux qui doivent évacuer le temps qu'ils décident soit de rentrer chez eux, soit de trouver une autre solution d'hébergement. Donc on a préparé une plus grande capacité parce qu'on a anticipé avec les services de l'État et notamment de la préfecture que si toute la presqu'île devait être évacuée, il faudrait une solution de repli. Et c'est ce que nous avons préparé depuis hier. Et là, nous sommes déjà à plus de 300 personnes qui viennent de rejoindre le parc des expositions et on est en situation de bien les accueillir après une nuit pour certains difficile.
Ouais, donc vous dites à ceux qui pourraient nous écouter sur la route et qui viennent de quitter le Cap Ferret qu'ils peuvent venir jusqu'à vous s'ils cherchent un point pour se reposer, tout simplement pour se mettre à l'abri.
Absolument, le hall 3 du parc des expositions, donc tout est en place. Je m'y suis rendu avec la préfète hier, il y a des volontaires, des agents de la métropole, tout est prévu pour bien les accueillir, qu'ils puissent y trouver un lieu de repos, de refuge, de la nourriture, aussi du réconfort, parce que j'ai pu voir hier les vacanciers qui étaient particulièrement déboussolés, ayant pour certains laissé leurs affaires personnelles dans les campings qu'ils ont évacués, donc ce qui permet aussi de leur donner des informations, de les rassurer. Donc voilà, toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui ont dû reprendre la route et qui ne savent pas où aller, ils peuvent s'arrêter au parc des expositions, c'est au bord de la rocade, à l'entrée de Bordeaux.
Thomas Cazenave, vous êtes en lien, j'imagine, avec les élus locaux, peut-être avec les autorités, les services de secours qui sont sur place dans la zone de l'incendie. Qu'est-ce qui vous remonte ce matin de l'inquiétude sur place?
J'ai suivi cette nuit parce que nous avons reçu notamment les informations de l'évacuation, des ordres progressifs d'évacuation de la presqu'île, qui a commencé par les quelques premiers villages de la presqu'île, puis plus tard dans la nuit toute la presqu'île. J'ai eu le maire de l'Esch-Cap-Ferret hier soir pour voir avec lui s'il avait d'autres besoins, y compris si on avait besoin de mettre en place un service de bus, mobiliser les bus de la métropole pour aller chercher celles et ceux qui n'ont pas de voiture. Donc on est en lien permanent avec les élus, services de l'État. Il y a une très très grande solidarité.
Et qu'est-ce qu'ils vous disent de la situation de l'incendie? Il y a une réelle inquiétude pour les zones pavillonnaires de cette bien région qui est très habitée, bien très sûr. Touristique surtout.
Oui, il y a une vraie inquiétude. Il faut voir la vitesse de progression du feu, la grande mobilisation des moyens des pompiers, qui est impressionnante ici, mais avec des conditions météo difficiles, du vent hier soir, une situation de sécheresse extrême dans le massif forestier font que le combat contre le feu est difficile, de l'aveu même des pompiers, mais je peux vous dire qu'ils sont extrêmement mobilisés. Tout ça se fait avec beaucoup de professionnalisme aussi, il n'y a pas de panique.
C'est des scénarios qui avaient été préparés, anticipés?
S'agissant de la presqu'île et des risques d'évacuation, oui, parce que le risque incendie est quand même bien connu dans notre région, et donc avec les services de l'État, services des pompiers, chacun à sa place, on met en place un ensemble de réponses. Vous voyez, par exemple, l'ouverture du parc des expositions fait partie de notre réponse en cas de crise, donc ça se fait de manière assez méthodique. Voilà, sans panique, il faut quand même le dire, mais de manière ordonnée. C'est ce qui est en train de se passer avec l'évacuation de la presqu'île.
Merci beaucoup, merci Thomas Cazenave d'avoir été en direct ce matin avec nous. On le redit, donc le parc des expos de Bordeaux qui est donc ouvert pour toutes ces personnes et notamment ces vacanciers qui sont en train en ce moment même d'évacuer la presqu'île du Cap Ferret. Thomas Cazenave, maire de Bordeaux, merci à vous. On est en ligne avec Nathalie qui nous a appelé, qui a composé le 32-16. Bonjour Nathalie.
Oui, bonjour.
Merci de nous appeler. Je vois que vous avez dû évacuer votre camping. Vous faites partie des gens qui sont ce matin sur la route pour quitter cette région.
Oui, tout à fait. Oui, on a pris la route. On nous a fait évacuer à 22h le camping à Parentis en Borne. Et puis du coup, on a été dirigé directement vers un gymnase. Mais bon, tellement de monde, et puis du coup on est rentré à notre domicile du coup avec les accords des organisateurs directement.
Votre domicile qui se situe où?
Dans le Maine-et-Loire, on est à Angers.
Vous êtes rentré à Angers.
On vient tout juste d'arriver il y a un quart d'heure.
D'accord, donc pour vous les vacances sont terminées?
Elles sont terminées, bon, une journée en avance, mais c'est moindre mal au vu de certains qui venaient d'arriver il y a quelques heures à nos côtés, en fait.
Racontez-nous comment s'est passée cette évacuation au camping, puis sur la route. Est-ce que ça s'est fait dans le calme? Est-ce qu'il y avait un peu de panique? Est-ce que tout est saturé sur les routes parce que tout le monde prend la route?
Alors tout s'est très très bien passé parce qu'on a eu une très bonne organisation de par le camping, en fait. Dans le calme, on a été averti mobilhome par mobilhome de commencer à préparer nos affaires. Et puis bah du coup dès 22h, on a eu une petite alerte dans le calme aussi pour commencer à rassembler dans nos véhicules et de partir tranquillement vers le gymnase le plus proche. Accompagné du coup des militaires également qu'on a vu à la sortie du camping, les forces de l'ordre et les pompiers nous guidaient directement, mais ça s'est fait dans le calme et dans le respect c'était bon, assez éprouvant, hein, je peux vous dire le contraire, mais franchement tout le monde a géré correctement, c'était chouette.
Quelle était la situation? Est-ce que l'incendie était très loin? Est-ce que vous avez vu, j'imagine des fumées à minima?
Oui, tout à fait. Les fumées se rapprochaient. Nous, on était de plus dans le sud toute la journée dans de la famille. Du coup, au fur et à mesure qu'on remontait vers Biscarros, on se rendait compte, bien sûr, on avait entendu les informations, mais on se rendait compte que c'était de plus en plus proche du coup en arrivant. Et puis, en arrivant au camping, on a vu que les fumées étaient beaucoup plus déployées derrière, tout proche du lac où on résidait. Donc, c'est là que ça nous a quand même incité à préparer quelques bagages quand même pour pouvoir être prêts au cas où. Et puis, à 22h, ça nous a été annoncé, donc voilà.
Et retour à la maison.
Retour à la maison, voilà, tout à fait. Où nous avons croisé des tonnes de camions de pompiers, je suppose, venus,
porter. Qui partaient en renfort.
Mais sur l'autoroute, dans l'autre sens, en fait. Hein, donc je pense que c'est les équipes de Paris ou de d'ailleurs, mais on a pas mal croisé, du coup, donc en force à eux, du coup.
Oui, on pense à tous ces pompiers, hein. Ce sont des centaines de pompiers qui sont mobilisés en Gironde et également dans les Landes. Merci beaucoup Nathalie pour votre témoignage. Nathalie qui donc fait partie de ces vacanciers qui ont dû évacuer en urgence les campings de la zone. On est avec Jean-Baptiste également au 32-16 du côté de la Teste de Buch en Gironde. On est tout près du bassin d'Arcachon, commune qui avait d'ailleurs, la Teste de Buch était touchée par des incendies en 2022. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Sébastien, bonjour tout le monde.
Chez vous, ce sont des évacués qui arrivent, puisque vous êtes de l'autre côté du bassin?
Oui, moi je suis sur la Teste de Buch, je travaille à Arcachon, et du coup, on voit du monde arriver par la côte. Moi je travaille le matin, donc à partir de 4h30. Ce matin, il y avait pas mal de rues qui donnaient accès au port et aux plages qui étaient bloquées. J'ai vu pas mal de navettes aussi de visite du bassin qui étaient réquisitionnées et qui servaient pour évacuer les gens. Un gros déplacement aussi des forces de police municipales et nationales avec des bateaux, des zodiacs, je pense, pour aider Les pompiers aussi mobilisés énormément, de toute façon toute la journée, tous les jours, ils sont en vigilance dans les forêts à tourner tout le temps, donc que ce soit sur la Teste ou Arcachon et les alentours. Donc oui, on voit beaucoup de monde arriver, partir, et puis bon, c'est les vacances, il y a des gens qui viennent quand même aussi. On a eu l'incendie à Biscarrosse qui est pas très loin, c'est une demi-heure de route aussi, qui à cause d'un camion encore, comme en 2022 à cause d'un camion.
Vous retrouvez entre les deux, Jean-Baptiste.
On est au milieu, et puis on voit en face de chez nous quoi, le Cap Ferré, tout qui est en train de cramer, le gros épais de nuages.
Vous noir, voyez la fumée.
Qui domine. Ouais, ce matin j'ai fait 2-3 photos aussi avec le lever de soleil et juste à côté en fait.
Image très impressionnante qui nous parviennent aussi. Merci beaucoup Jean-Baptiste pour votre témoignage. 32-16, vous continuez de témoigner. 8h25, l'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Avec Emmanuel Le Chypre, et est-ce que justement on a déjà une idée, Emmanuel, des conséquences économiques des incendies qui ravagent la France?
Bah, c'est des incendies records. À ce stade de l'année, plus de 46 000 hectares ont déjà brûlé, c'est du jamais vu. Les conséquences économiques, elles sont nombreuses, à court comme à long terme. Il y a d'abord les coûts des secours. Les très grosses interventions comme Fontainebleau ou le Cap Ferret, c'est entre 10 et 12 millions d'euros. Il y a l'impact touristique sur la saison et sur les saisons suivantes. La fréquentation chute d'environ 40% l'année qui suit des incendies dans une région. Après les incendies d'Arcachon en 2022, le secteur du tourisme avait perdu plusieurs centaines de millions d'euros. Il y a les pertes d'activité pour les entreprises, les commerces, les exploitations agricoles, la filière bois, plusieurs dizaines de millions d'euros de pertes. Il y a aussi l'indemnisation des assurances. Il faut savoir qu'une maison incendiée, en moyenne, bien sûr, c'est 15 000 euros d'indemnité. C'est le sinistre le plus coûteux pour les assureurs.
Est-il possible de mesurer le coût, cette fois pour l'environnement?
Oui, alors les économistes essaient de plus en plus de mesurer le coût de ce capital naturel détruit, selon leurs propres termes. Les émissions de CO2 à cause des feux, par exemple, c'est 200 millions d'euros. Les pertes pour la biodiversité, la régulation de l'eau, le dérèglement des écosystèmes, tout ça coûte aussi très cher. Le reboisement, c'est entre 3 000 et 8 000 euros par hectare. Il faut rappeler que plus de la moitié du PIB mondial dépend des services rendus par la nature, comme disent les experts. Donc, il y a les coûts visibles. À court terme, c'est sans doute 1 à 2 milliards d'euros, et les coûts invisibles, qui sont encore plus élevés.
Allez, on termine avec les chiffres habituels, les chiffres des prix de l'énergie.
Ça continue de monter. Le gazole à 2,16 € le litre. Le sans-plomb 95 à 2,02 €. Le pétrole, on touche à nouveau les 100 $ le baril. Et le gaz est à 63 € le mégawattheure. C'est un record depuis le début de la crise.
Merci Manu. 8h27. Dans un instant, la météo et le journal. Il est 8h30, presque 8h30.
RMC, Apolline Matin.
Et tout de suite, c'est l'heure d'un nouveau journal avec Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Les pompiers face à des incendies apocalyptiques en Gironde et dans les Landes. Plus de 8700 hectares brûlés au nord du bassin d'Arcachon et plus de 2500 à Biscarrosse. Et des évacuations massives, notamment la presqu'île du Cap Ferré. La France appelle l'Europe à la rescousse face à ces incendies hors normes. Des renforts attendus dans les prochaines heures. Et le peloton du Tour de France à bout de force face au mur de l'Alpe d'Huez.
Le cauchemar pour des milliers de personnes en Gironde.
Les images sont impressionnantes, effrayantes. Un mur de flammes ravage le nord du bassin d'Arcachon, un feu hors de contrôle. Plus de 8 700 hectares brûlés depuis hier et près de 20 000 touristes, habitants obligés de fuir leur maison. Et le Cap Ferré est concerné. Des évacuations sont en cours par la route, mais Lucas Laubert également par la mer.
Oui, depuis 7 heures ce matin, des navettes maritimes font des allers-retours entre quatre jetées de la presqu'île et le port d'Arcachon où plus de 400 personnes sont déjà arrivées. Priorité à ceux qui n'ont pas de moyens de locomotion. Pour les emmener du bout de la presqu'île vers les bateaux, des bus du réseau de transport de l'Eige Cap Ferré sont réquisitionnés. Le préfet de Gironde a également pris un arrêté pour interdire la navigation dans le bassin d'Arcachon et laisser place aux évacuations. Toute la presqu'île est évacuée suivant un plan d'évacuation minutieux et élaboré après les incendies exceptionnels de 2022 en Gironde. C'est la première fois qu'il est mis en œuvre. En parallèle des évacuations par voie maritime, les personnes qui le peuvent doivent quitter les lieux en empruntant la route départementale vers le nord du bassin, et ce immédiatement car le feu progresse. Dans la nuit, le nombre d'hectares brûlés a presque doublé, atteignant 8700 hectares.
Lucas Laubert, une situation dantesque également dans les Landes. Voilà comment qualifient les pompiers l'incendie qui sévit actuellement à Biscarrosse. Ils parlent d'un feu apocalyptique, plus de 2500 hectares brûlés, 3000 personnes ont dû fuir leur domicile ces dernières heures, notamment vers les plages. C'est le cas de Virginie et Christophe qui logeaient dans un des campings évacués que notre envoyé spécial RMC, Léonie Guilbeault, a rencontré ce matin.
J'ai demandé si on avait un petit peu de temps pour préparer les affaires et ils nous ont répondu « vous évacuez dès que possible ». On pensait ne rien craindre puisque c'était quand même assez éloigné du lac. Puis finalement, pour les fumées toxiques, apparemment, ils ont préféré que tout le quartier de Navarros évacue.
On a pris l'ordinateur, les téléphones, les papiers, les passeports, voilà, au plus vite quoi.
Franchement, trois fois rien quoi, une tenue de rechange et puis c'est tout quoi. On est plus angoissé qu'autre chose, voilà, on n'a qu'une envie, c'est vite partir.
Trois nouveaux lieux d'accueil ouverts aux sinistrés ce matin, notamment l'église de Biscarros, plage ou encore l'ancienne gendarmerie de la plage. Un camion en panne qui a pris le feu hier près d'une forêt serait à l'origine de cet incendie. Le Var brûle toujours également. L'incendie dans le secteur de Cotignac n'est toujours pas fixé ce matin. 2700 hectares brûlés depuis mardi et de nombreuses reprises du feu hier. Certains habitants ont pu regagner leur domicile avant d'être une nouvelle fois évacués. Notre envoyé spécial RMC, Célestin Bougère est allé à leur rencontre.
Avec son mari, Sylvie salue les bénévoles réunis devant la salle des fêtes.
Nous revoilà ici pour la deuxième fois.
À peine rentrée chez elle, les flammes se sont rapprochées de nouveau quelques heures plus tard. Elle vient d'être évacuée pour la deuxième fois en trois jours.
Maintenant, j'espère que ça va aller, quoi.
C'est parce qu'on revient une première fois, on se dit, bon, soulagement un petit peu de voir qu'il n'y a rien. Et là, ça repart.
Ah non, oui, franchement, j'en aurais pleuré. Hein. Et j'avais perdu mon chat. Il est revenu, mais là, elle est encore dehors, alors on verra bien.
Il y a un peu d'épuisement, j'imagine, au bout de trois jours.
Épuisement, de l'énervement. On attend des nouvelles pour entrer.
Des allers-retours qui épuisent et qui inquiètent les habitants. Depuis l'entrée de la salle des fêtes, on aperçoit derrière les arbres une fumée épaisse. L'incendie reprend alors de la vigueur. Esterina vient d'évacuer aussi pour la deuxième fois.
On a la chance que notre maison n'a rien eu du tout. À 50 mètres, c'est tout cramé. Mais on n'a aucune information, en fait. Ça qui est encore plus angoissant parce qu'on ne sait pas trop à qui se fier, quoi.
De pas savoir si sa maison a été touchée, c'est le plus dur pour ces habitants qui ont tous les yeux rivés sur leur téléphone en quête de la moindre information.
L'autre incendie du Var, qui a détruit près de 200 hectares le week-end dernier à Tarado-les-Arcs, près de Draguignan, serait d'origine criminelle. Un suspect a été identifié et activement recherché, un homme sur un scooter en train de mettre le feu à l'aide d'un bidon d'essence. C'est ce que nous apprend BFM Var.
Et des renforts sont en train d'arriver pour venir épauler les secours français.
Des flammes incontrôlables, des moyens français sous tension. La France se tourne vers l'Europe. Emmanuel Macron a demandé, Antoine Audion, l'activation du mécanisme européen de protection civile.
Oui, la France va pouvoir compter rapidement, selon le président de la République, sur deux Canadair croates, deux avions Air Tractor portugais. Ils peuvent larguer environ 3000 litres d'eau et deux hélicoptères lourds en provenance de Tchéquie et de Slovaquie, des Black Hawk bombardiers d'eau. Tous ces renforts, ils sont déployés dans le cadre du mécanisme européen de protection civile. Il existe depuis 2001 et il permet aux pays membres et à 10 autres pays partenaires de demander des renforts en cas de catastrophe. Depuis le début de la saison des feux de forêt, la France l'a déjà activé à plusieurs reprises dans les Pyrénées-Orientales ou dans la Drôme, par exemple. À l'échelle européenne, cet été, 22 avions et 5 hélicoptères sont mobilisables pour aider les pays confrontés à des incendies et qui en font la demande.
Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunes, suit attentivement la situation et est actuellement au centre opérationnel de la gestion interministérielle des crises de Beauvau. Une prise de parole est prévue à l'issue de cette réunion. Des incendies également en Espagne. L'urgence nationale a été déclarée dans la région de Madrid et dans une autre province près de la capitale. Objectif, mobiliser plus de moyens pour lutter contre ces incendies. Incendies qui ont entraîné l'évacuation de 10 000 personnes. 32 000 hectares ont été ravagés en une semaine. Un concert gratuit d'Amir annulé pour des raisons de sécurité après des appels au boycott pro-palestinien sur les réseaux sociaux. Le collectif Union Palestine-Marseille a qualifié cette annulation de victoire de la mobilisation populaire. Le CRIF, lui, se dit profondément inquiet et dénonce une chasse aux artistes juifs.
Il est 8h35 et on part sur la route du Tour. Le Tour qui entre dans le dur aujourd'hui.
J-3 avant Paris, mais l'heure de vérité a sonné. Deux arrivées inédites à l'Alpe d'Huez attendent un peloton à bout, marqué par la chaleur et un rythme infernal. Et aujourd'hui, Romain Asselin, les survivants vont devoir puiser dans leur dernière force.
Il n'y a qu'à voir la mine de certains à l'arrivée des étapes.
C'est de la survie, c'est mentalement, il faut être très fort.
Directeur sportif chez Astana, Yvon Le Danois trouve les coureurs bien plus épuisés que d'habitude à ce stade de la course.
Il y en a déjà 85% qui le sont, pour pas dire 95%, donc ou voire même 100%.
Benjamin Thomas le constate en montagne, dans le groupe Eto à l'arrière de la course.
Des fois, on est 90-100 coureurs, c'est du jamais vu. On voit beaucoup de coureurs malades, et là, le moindre petit virus, le moindre petit rhume, ça peut vite t'amener à la maison. Derrière, tout le monde est cuit, quoi. c'est un peu atypique, mais ça vient du fait que les débuts de course sont de plus en plus intenses.
Plus de 44 km/h de moyenne depuis début juillet. Le peloton est sur les bases du Tour de France le plus rapide de l'histoire. Et une chaleur qui dure. Kevin Vauclin était lessivé hier à l'arrivée.
Sensation de merde. J'avais mal à la tête et tout, là. C'était horrible. Je suis embattu avec moi-même. J'ai vraiment envie de faire belle figure à Paris. Mais bon, avant de parler de Paris, il faut que j'aille être.
Car il reste deux ascensions de l'Alpe d'Huez à surmonter d'ici dimanche pour le peloton et Alex Baudin.
On commence à être tous morts, donc on verra ce qui reste pour les deux derniers jours, mais ça va être dur.
De la souffrance.
Le prix à payer pour rallier les Champs-Élysées.
Intégral Tour dès 14h sur RMC.
Le Quintet, c'est à Cabourg aujourd'hui à 20h15.
Et le pronostic de Mathieu Zaccanini, son favori, le 7 Kéops Bégonia, son outsider, le 11 Kénor des Bois.
Merci, c'était le journal de Clément Gouitz sur RMC. Il est 8h37.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, on retourne en Gironde où des milliers de personnes sont en train de fuir, d'évacuer la presqu'île du Cap Ferré. On est à 8700 hectares brûlés. Il y a des centaines d'évacués aussi par bateau. Vos témoignages dans un instant au 32-16. On sera aussi en ligne avec le maire d'Arcachon. On est déjà en ligne avec Julia Delage qui est avec nous. Bonjour Julia.
Bonjour.
Julia Delage qui est la directrice adjointe de la rédaction de BFM TV. En vacances dans la zone et en train d'être évacué. Vous allez nous raconter dans un tout petit instant. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h40 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Et nous suivons depuis tôt ce matin, minute par minute, la situation en Gironde, dans les Landes également, où des milliers de personnes sont en train de fuir des zones très touristiques et remplies de vacanciers. C'est le cas du côté de Biscarrosse, où la consigne a été donnée au cœur de la nuit d'aller se réfugier sur la plage. C'est le cas évidemment du côté du Cap Ferré. Là, ce sont des milliers de personnes qui fuient à la fois par bateau et par la route, cette presqu'île qui borde le bassin d'Arcachon. On est en ligne avec Julia Delage. Rebonjour Julia.
Bonjour.
Directrice adjointe de la rédaction de nos voisins et confrères de BFM TV. Julia, vous êtes en train de fuir. On vous a donné la consigne cette nuit d'évacuer la presqu'île où vous étiez en vacances.
Oui, exactement. C'est un message qui nous a réveillés vers 6h20, 6h23 exactement. Et c'est un message de faire alerte, hein, donc grosse sonnerie. Et ensuite, lorsqu'on lit le message, il fallait évacuer la presqu'île dans les meilleurs délais. Le message donnait des indications, donc une voie terrestre, donc la fameuse D106, hein, cette unique route qui permet de sortir de la presqu'île. Et puis sinon, on pouvait aussi se rendre à différents points autour du bassin pour partir direction Arcachon via des bateaux.
Et vous avez pris la route ?
Exactement, on a pris la route, donc on a traversé la presqu'île. Impressionnant, plus on s'acheminait vers la sortie, plus on voyait de gendarmes qui commencent vraiment à faire des rondes dans toute la presqu'île pour s'assurer que l'ordre d'évacuation est bien respecté. Et impressionnant aussi, juste en sortant de Claouet, un village donc juste vraiment à la sortie de la presqu'île en direction de Bordeaux, on a vu vraiment de nombreux pompiers s'atteler. Et avec aussi des engins de chantier, évidemment, pour brasser le sable. Et là, on vient de sortir, on est au niveau d'Arès. Vraiment, en ce moment même, juste derrière les pins, on voit le feu qui est à quelques centaines de mètres de la route, qui donc sort du Cap Ferret et se dirige vers Arès.
Là, vous voyez les flammes depuis la route.
Ouais, là, on les voit. Ouais. Depuis la route, on les voit. Elles sont à plusieurs centaines de mètres, mais on les voit clairement. Il y a d'ailleurs des gens qui sont arrêtés pour prendre des photos. Les gendarmes surveillent tout ça. Et en effet, à chaque rond-point, il y a et la gendarmerie et des pompiers qui se relèvent en fait et qui font des tournées pour retourner sur le front du feu.
Et comment ça se passe sur la route? Est-ce que les axes, vous le disiez, il y a une seule route pour sortir de la presqu'île, c'est complètement saturé ou ça avance dans le calme?
Non, au début, c'était vraiment, on était complètement à l'arrêt. Et puis, au fur et à mesure, ça roule tout doucement, on roule au pas, mais ça commence à rouler tranquillement. Et là, franchement, à la sortie de la presqu'île, ça roule normalement.
Ouais. Vous sentez sur place que c'est un scénario qui avait été anticipé, qui avait été préparé avec, vous le disiez, des points déjà prévus pour aller prendre d'éventuels bateaux.
Oui, et puis les gens étaient très calmes, mais ils avaient quand même un tout petit peu anticipé dès hier déjà. On voyait les gens qui avaient fait leur bagage, rempli leur voiture, sans partir forcément. Hein. Nous-mêmes, on avait tout paqué au cas où. Et donc, quand ce message est tombé, finalement, on a tout mis dans la voiture et puis on est parti tranquillement. Mais franchement, sur le chemin, pour le coup, les forces de l'ordre ont assez bien encadré les choses. Il y a des motards qui font des allers-retours régulièrement, pour vérifier qu'il n'y a plus personne dans les maisons et puis aussi pour voir si personne ne s'arrête sur la route. C'est pour le coup ça assez bien encadré.
Ouais, merci beaucoup Julia Delage pour ce témoignage en direct. Julia Delage, notre consoeur, collègue de BFM TV en vacances dans la zone et qui est en train donc de fuir par la route sur cette unique route qui sort de la presqu'île du Cap Ferret et qui nous dit que les flammes sont à peine à quelques centaines de mètres de cette route qui est essentielle pour permettre aux habitants et aux vacanciers de quitter la zone. On est avec Stéphane qui est avec nous au 32-16. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Stéphane, vous, c'est un membre de votre famille, c'est ça qui a évacué cette nuit ?
Qui a été évacué à 3h30 de Claoué.
Donc sur la presqu'île, voilà.
C'est le premier village juste après Arès. Voilà, et donc ils ont été évacués à 3h30. Ils voulaient pas au départ, puis après ils ont été obligés. Et voilà, mais lui, il s'est insurgé depuis. C'est un habitant, hein. Lui, c'est sa maison principale.
À l'année,
il avait préparé les. Mmh. Ouais, voilà, c'est pas des vacanciers, hein. Donc ils sont allés dans la famille sur Andernos, voilà, pour attendre. Et donc ils en savent pas plus de savoir quand c'est qu'ils pourront réintégrer les maisons.
C'est leur maison, vous le disiez, c'est pas tout à fait la même chose quand on est en vacances quelque part ou quand c'est son domicile. J'imagine qu'il y a une inquiétude terrible de savoir ce qui va se passer dans les toutes prochaines heures.
Ben ils sont inquiets, oui forcément ils sont inquiets et puis c'est surtout que là où ils sont un petit peu en colère, c'est que rien n'est fait par rapport à cette presqu'île où ça passe de 15 000 habitants l'hiver à 120 000 l'été avec une seule route. On trouve ça complètement aberrant. Ils appellent ça la souricière, c'est-à-dire que quand vous êtes là-dedans et qu'il y a quelque chose qui arrive, vous êtes pris au piège. Donc il y a qu'une seule route pour 120 000 personnes.
Et effectivement, d'où cette évacuation qui pour l'instant est une précaution, hein. La presqu'île n'est pas en train de brûler, mais le feu menace et s'en approche. Il a d'ailleurs, il y a déjà des habitations au nord de cette presqu'île qui ont brûlé et les autorités ont décidé par précaution de tout évacuer parce qu'effectivement il y a des dizaines de milliers de personnes l'été et de touristes et qu'il faut évacuer à la fois par cette route unique et à la fois par la mer, par le bassin d'Arcachon par bateau. Merci pour votre témoignage Stéphane. Il est 8h47 et dans un instant on sera justement en ligne avec le maire d'Arcachon, juste de l'autre côté du bassin, qui est en train lui-même d'accueillir les évacués qui ont quitté la presqu'île du Cap Ferret par bateau. À tout de suite sur RMC, 8h47.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 8h49, vous êtes bien sur RMC et RMC Story, situation cauchemardesque, apocalyptique, disent les pompiers en Gironde et dans les Landes ce matin. L'alerte est tombée au cœur de la nuit pour tous les vacanciers qui se trouvent et les habitants hein, qui se trouvent sur la presqu'île du Cap Ferret au bord du bassin d'Arcachon. Il faut évacuer, des évacuations par bateau avec des centaines de personnes qui montent sur des bateaux, des évacuations par la route. Plusieurs témoignages depuis ce matin sur RMC de ces vacanciers qui ont dû prendre la route en urgence au cœur de la nuit. Julia Delage était avec nous pour nous le raconter. Nathalie, tout à l'heure, qui a dû rentrer chez elle jusque dans le Maine-et-Loire. On est à 8700 hectares brûlés en Gironde. Et puis il y a cet autre incendie au sud du bassin d'Arcachon, cette fois dans le département des Landes, à côté de Biscarrosse. Et là aussi, on a évacué plus de 20 000 personnes durant la nuit avec la la consigne d'aller se réfugier sur la plage parce que là aussi l'incendie menace des habitations, beaucoup de vent et une sécheresse évidemment terrible, un cocktail explosif dans ces départements. Vous continuez de nous appeler au 3216 pour témoigner. Vous nous écrivez sur le WhatsApp RMC. On a beaucoup de messages ce matin, Victor.
Et beaucoup de messages qui expriment leur inquiétude, évidemment, leurs hommages aux personnes qui sont prises dans ces incendies et dans ces flammes. Et puis comme Stéphane qui vient de nous appeler juste avant la pub et qui nous disait qu'il y a de la colère aussi sur place, de la colère de se dire que les infrastructures ne sont pas toujours prêtes, qu'il n'y a qu'une seule route pour évacuer en ce moment même cette presqu'île du Cap Ferret. C'est un petit peu ce que nous dit un message qui n'est pas signé, un message qui est anonyme et qui nous dit mais pourquoi on ne réquisitionne pas des citernes un peu partout pour aider au maximum les pompiers, des citernes qui auraient des capacités d'eau et qui pourraient aider ces soldats du feu qui sont sur le front de ces incendies. On a aussi Charlie qui nous dit qu'il est vraiment révolté par ce qui est en train d'arriver. Il nous dit texto, hein, ce qui devait arriver arriva, notre forêt, je la pleure. Il nous dit, alors oui, pour l'instant il n'y a aucune victime à déplorer. Évidemment, sur RMC on vous tiendra au courant minute par minute de l'avancée des informations que l'on a. Oui, aucune victime, nous dit Charlie, mais notre faune, elle, notre flore se meurt sous nos yeux. Et on pourra reconstruire après, certes, mais ce sera extrêmement compliqué, il ajoute Charlie dans sa colère. Ce monde me dégoûte. On a aussi d'autres témoignages de gens qui pensent à leurs proches qui sont sur place. Nous avons par exemple Christian qui nous dit qu'il a une pensée pour sa tante, pour son oncle qui habite à la Teste de Buch, là aussi largement ravagée par les incendies. Souvenez-vous, c'était en 2022. Il a une pensée pour eux et il nous dit le bassin d'Arcachon à nouveau ravagé. Il faut absolument trouver les responsables. Et enfin, on a Thierry qui nous dit que voilà, beaucoup de ces forêts sont dévastées et que pour lui, c'est l'émotion qui prime. Les mots lui manquent, c'est ce qu'il nous écrit.
Ouais, je crois qu'on est tous très marqués, impressionnés par les images qui nous parviennent. On a une pensée évidemment pour tous les pompiers qui sont sur le front. On est en ligne avec Yves Foulon qui est le maire d'Arcachon. Bonjour monsieur le maire.
Bonjour monsieur.
Merci d'être avec nous en direct. On imagine que vous êtes sur le pont depuis très très tôt ce matin, voire toute la nuit. Et là vous êtes en train d'accueillir du côté d'Arcachon, donc en face du Cap Ferret, de l'autre côté du bassin, les évacués qui ont quitté le Cap Ferret par bateau.
Oui, on est opérationnel depuis 6h ce matin. Donc les premiers bateaux sont arrivés à 7h et on a à peu près 800 personnes qui sont accueillies ici au Palais des Congrès, puisque ils arrivent à la jetée de pierre, on les amène au Palais des Congrès où ils peuvent prendre un petit déjeuner, puis ensuite on les oriente. Alors beaucoup se dirigent vers la gare d'Arcachon pour ensuite regagner Bordeaux. Il y a un train toutes les heures. Beaucoup ont des amis ou de la famille qui les prennent en charge directement à Arcachon. Et finalement, sur les 800 déjà accueillis, on a 15 personnes que l'on va loger ici à Arcachon. On fait ça en relation avec les trois autres communes du Sud-Bassin, la Teste, Cujan et Le Teche. En fait, on a une capacité d'accueil pour dormir à hauteur de 1200, mais là, il est 9h ce matin, on en a 15 qui souhaitent rester dormir.
Ce sont principalement des vacanciers, j'imagine, beaucoup de familles.
Des vacanciers, oui. Alors certains étaient à l'hôtel au Cap Ferret, d'autres, alors ils sont avec leurs valises, d'autres avaient des locations et ils espèrent regagner le Cap Ferret dans les jours qui viennent pour récupérer leurs bagages et leurs vêtements et leurs effets personnels. Et ça, on ne sait pas leur dire quand ils vont pouvoir repartir au Cap Ferret pour reprendre leurs affaires. Donc ça se passe bien, c'est douloureux parce que ils sont choqués d'avoir été évacués assez brutalement dans la nuit. C'est choquant pour des raisons que l'on peut comprendre.
Merci beaucoup pour d'avoir été avec nous en direct. Yves Foulon, maire d'Arcachon. Donc vous nous dites ce matin 800 personnes qui ont quitté par bateau le Cap Ferret, qui sont arrivées à Arcachon, en plus de des milliers de personnes qui ont pris la route ces dernières heures pour quitter cette presqu'île du Cap Ferret qui est toujours menacée par les flammes. Les reporters d'RMC bien sûr sur le terrain depuis très tôt ce matin. Merci à eux et à toutes les équipes d'RMC. C'est l'heure des grandes gueules avec Olivier Truchot.
Bonjour à tous. Effectivement, les grandes gueules qui sont assez effrayées par ces images des incendies monstres en Gironde et dans les Landes, avec des vacanciers qui sont obligés de tout quitter. cité avec des habitants qui ont été évacués. Doit-on craindre le pire cet été avec ces incendies? On en parlera dans les grandes gueules et avec vous bien sûr au 32-16. Et puis on reviendra sur ce que dit Gabriel Attal, le candidat Attal qui est en Bretagne en ce moment. Il estime que l'écart entre le net et le brut sur nos salaires est devenu un scandale français. Voilà ce qu'il dit, il a des propositions à faire. Il sera avec nous par téléphone. On l'appellera depuis la Bretagne dans les grandes gueules. Donc restez bien fidèles à 9h sur RMC et RMC Story.
Les grandes gueules dans un instant. Et nous on vous dit à lundi pour Apolline Matin. Très bonne journée.